C'est notre pote, notre camarade, notre cousin radiophonique Eladj est arrivé de Guinée à Arras il y a plusieurs années maintenant et aujourd'hui il est menacé d'expulsion. Eladj, c'est quelqu'un de discret qui parle peu de lui-même et de son histoire, mais il a bien voulu nous accorder son témoignage et évoquer à notre micro son parcours. Un entretien réalisé vendredi dernier.
Je m'appelle Eladj Alpha, je suis guinéen. Je viens de la Moyenne Guinée, entre la Basse-Côte et la Haute-Guinée.
Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu dans quelles conditions tu as été amené à fuir, à quitter ton pays ?
En fait, déjà depuis mes années de lycée, moi j'étais meneur d'hommes dans le mouvement des élèves. À l'université, la même chose. Donc ça a toujours été vraiment un combat pour moi, quoi. À chaque fois qu'il y avait revendication, à chaque fois qu'il y avait mouvement de grève, je participais.
Quelles étaient vos revendications à l'époque ?
Bon, déjà, il y a les conditions de vie à l'université. Et en plus, il y avait aussi pas mal de choses. Non seulement manque de moyens au niveau des facs, mais aussi la condition de vie des Guinéens en général. Ouais, ils sont mécontents parce qu'il y a une corruption totale. Il y a une corruption totale qui garnit ce pays. Deuxièmement, il y a la misère et l'insécurité qui bat son plein, quoi. Tu peux t'attendre à être assassiné d'un jour à l'autre. On se demande vraiment à qui le suivant, quoi. C'est-à-dire à qui sera le suivant dans la liste des victimes, quoi.
Après la fac, donc, tu entames une carrière de bibliothécaire, c'est ça ?
Oui, bon. Déjà, j'ai commencé un peu dans l'enseignement privé. Donc, j'ai enseigné un peu dans l'élémentaire. Et du coup, je me suis orienté vers les bibliothèques. Une bibliothèque publique. Donc, cette bibliothèque, bon, en tant que responsable, j'ai mis en place des structures de jeunesse vraiment pour faire bouger cette bibliothèque. On faisait pas mal de choses et en même temps, j'étais militant aussi, bon, activiste de l'opposition, quoi, guinéenne.
Comment ça se passait ? C'est un parti politique, l'opposition ? Ou il y a des syndicats ? Ou il y a des associations ? Comment ça se structure un petit peu l'opposition ? Ou alors est-ce que c'est complètement clandestin ?
Bon, les partis d'opposition, c'est pas clandestin, c'est pas clandestin. En fait, la Guinée est structurée de telle sorte que vraiment il y a ce qu'on appelle ethnie. C'est-à-dire le truc d'ethnie, quoi. La Basse-Côte ou Basse-Guinée, c'est le domaine, c'est la région des Soussous, de l'ethnie Soussous. La Moyenne-Guinée, c'est la région des Peuls. La Haute-Guinée, c'est la région des Mandingues, des Maninka. Et la Guinée forestière, c'est les forestiers. Donc, chaque leader politique, vraiment, a un fief bien déterminé dans sa région d'origine, quoi.
Et donc, toi, tu es membre d'un parti en particulier ? Tu étais membre d'un parti en particulier ?
Bon, je ne suis pas membre d'un parti, mais vraiment, je soutenais quand même, je participais aux actions d'un parti politique. Vraiment, à chaque fois que ce parti organisait des manifestations, tout et tout, je participais.
Et c'est ça qui a fait que tu t'es senti menacé, que tu as quitté la Guinée ?
Ouais. À chaque fois que une manifestation de l'opposition se déclare, le plus souvent c'est un bain de sang. Je vais vous donner juste un exemple. Ne serait-ce que le lundi passé, le 20 février 2017, il y a eu, bon, déjà depuis le début du mois de février 2017, il y a eu une revendication du corps de l'éducation. Donc, pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. Donc, bon, déjà, je ne sais pas comment ça se structure là-bas, mais il y avait une crise salariale ou indiciaire, quelque chose comme ça, qui avait été déjà établie par l'ancien régime de feu général Lansana Conté, donc, qui se chiffrait, je crois, à 1050 gris indiciaire, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, tandis que l'actuel président, dès qu'il est venu au pouvoir, il a balayé ça, il a ramené à 750 et c'était peu. Donc vraiment, et chaque fois, il promettait qu'il allait augmenter, mais les gens, bon, les enseignants en ont ras-le-bol. Et du coup, il y a eu cette manifestation, cette grève générale qui a été déclenchée depuis le début de ce mois de février. Et le lundi 20 février 2017, il y a eu une grève générale qui a paralysé le pays. Et du coup, les militaires, les forces de l'ordre sont sortis. Ils ont tiré à bas réelles sur les manifestants. Donc, il y a eu 5 morts. Et le mardi 21, il y a eu 2 morts. Donc, ce qui fait que le lundi et le mardi passé, il y a eu 7 morts juste à cause de cette revendication vraiment. Et les élèves aussi qui ont été assassinés, ils sont là, ils revendiquaient juste vraiment que le gouvernement ait pitié d'eux pour la reprise des cours. Imaginez dans un pays... juste pour réclamer son droit, on t'assassine. Donc, depuis le 6 février, il n'y a pas eu d'école. L'école vient de rouvrir, je crois, un mercredi. Et même ça aussi, l'ouverture n'a pas été effective parce que, bon, les gens ne sont pas contents. Donc, l'État les berne toujours, tout et tout. Donc, vraiment, c'est ce qui pousse le peuple à se révolter à chaque fois. Donc, mais à chaque fois qu'il y a révolte, il y a une répression sanglante soldée par des morts.
Oui, justement, c'est une crise politique dont on entend assez peu parler en France. Pourquoi, à ton avis?
Bon, en fait, moi, je vous dis, franchement parlant, ça me fait chaud au cœur lorsque beaucoup de choses se passent. Bon, déjà, la Guinée, on dit que ce n'est pas sur la liste des pays en guerre, mais je vous dis, il y a de ces choses qui se passent en Guinée que le gouvernement n'ose pas dévoiler. Les tortures dans les prisons, le comportement des militaires. Et je vous dis, chaque jour, il y a des assassinats en Guinée. Chaque jour, il y a des assassinats. Et qui assassine, je vous dis, ce sont les militaires, les hommes en tenue. Parce que les attaques perpétrées, ce sont toujours des hommes en tenue. Donc, ce qui veut dire que l'État n'a pas sa responsabilité. L'État n'a pas sa responsabilité. Pourquoi? Parce que normalement, en Guinée, c'est interdit pour un civil de porter des habits en treillis, des habits militaires. Donc, c'est interdit. On te voit avec un habit militaire. Tu es civil, vraiment, tu auras une sanction. Mais donc, ce qui veut dire que ceux qui portent les treillis sont des militaires. Et ce sont ces militaires qui attaquent la population, les tuent chaque jour et chaque soir. Il y a des braquages. En fin d'année 2016, pour vous donner vraiment le degré d'insécurité qui sévit en Guinée, il y a 2 préfets qui ont été attaqués. Le premier... Je ne sais pas si c'est des malfrats ou bien c'est des militaires. De toute manière, c'était des personnes habillées en tenue militaire. Donc, ils sont venus chez le préfet. Ils l'ont tabassé. Moins 5, ils ne l'ont pas tué. Donc, vraiment, ils l'ont tabassé. Ils ont retourné sa maison. Ils ont pris ce qu'ils ont envie de prendre et se sont sauvés. Et le préfet a été évacué d'urgence, je crois, vers la Tunisie. Donc, on l'a soigné là-bas. Après, je crois, 1 ou 2 mois... Il est rentré en Guinée. 2 semaines après, il y a un autre préfet qui a été aussi victime d'attaque. Donc, c'est pour vous montrer que vraiment, ce pays est dans une impasse totale. Il n'y a pas de sécurité. Le peuple n'est pas sécurisé. Ceux qui sont censés protéger ce peuple, vraiment, au lieu de les protéger, ils tuent la population. Et ce qui s'est passé la semaine passée, la semaine dernière, donc, c'est 7 personnes tuées par les forces de l'ordre. Déjà, la 7e personne a été écrasée par un pick-up de béret rouge. Cet élève de, c'est pas 17 ou 18 ans comme ça, a été écrasé par ce pick-up et jusqu'à présent. L'État, le gouvernement guinéen, n'a pipé mot sur ces massacres.
Les bérets rouges
Les bérets rouges, c'est l'élite de l'armée guinéenne. C'est pour vous dire, bon, on parle de réforme de l'armée, mais c'est faux. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Je vais toujours dénoncer. Mais pour le moment, bon, vraiment, parce que j'ai ma famille au pays, j'essaie de moduler. Mais je vais toujours dénoncer ce qui se passe dans mon pays. Que ça plaise ou pas au gouvernement, moi je vais toujours dénoncer.
Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Aide-moi à combattre cette injustice. Aide-moi à vaincre l'ethnocentrisme. Aide-moi à combattre l'adversité. RPG et UFDG, UFR et PDN, construisons une nation sans la reine, où l'ethnie de l'autre ne signifie rien aux yeux de l'autre, où la couleur de l'autre ne signifie rien aux yeux de l'autre, où l'amour est le seul remède de ce monde.
Suite de notre entretien avec Eladj Ba, habitant arajois menacé d'expulsion.
Aidez-moi à combattre cette injustice. Aidez-moi.
Je reviens à ta situation personnelle. Comment ça s'est pris, cette décision de quitter la Guinée, pour toi ?
En fait, j'étais pas venu en France dans le but de rester. Je suis venu passer des congés. J'ai eu un visa d'un mois. Donc, j'avais mon père qui était malade, qui a eu un AVC en 2008. Donc, à mon retour, je devrais l'amener se soigner. Donc, je viens ici. On me dit non, ma famille m'informe vraiment que je suis recherché, quoi. Donc, je pouvais pas.
Comment ça s'est passé ensuite pour toi, donc pour rester en France? Et puis pourquoi finalement Arras et pas une autre ville? Comment tu es arrivé ici à Arras?
Dès que tu te lances dans la procédure d'asile, tu as un contrat à remplir, c'est-à-dire on te donne une fiche stipulant que tu vas dans un centre d'accueil dès qu'une place est libre. Donc, si tu refuses, tu ne vas plus percevoir l'ATA, c'est-à-dire cette allocation temporaire d'attente. Et moi, j'étais là, on me dit qu'il y a une place libre au Cadre d'Arras, donc on m'oriente vers là.
Donc, tu rentres dans ce processus d'une demande d'asile, donc tu résides sur Arras, hein, au CADA, donc centre d'accueil des demandeurs d'asile. Une situation compliquée parce que on attend, en même temps on a quitté sa famille, on se demande si on pourra un jour rentrer dans son pays. Comment tu as vécu ce moment particulier quand même?
Écoutez, c'est pas facile et tant que tu ne vis pas la situation, tu ne peux pas vraiment comprendre ce que nous vivons. Heureusement, moi, au CADA, vraiment, j'ai eu la chance de tomber sur des éducateurs qui ont le cœur en or, quoi, vraiment, qui nous ont accueillis à bras ouverts, vraiment, qui nous accompagnaient tout et tout. Donc, mais sinon, que ça soit dans un centre foyer, dans un foyer ou dans un centre d'accueil, si tu n'es pas blindé, tu craques. Parce que, moi, je prends un exemple sur moi. Dans mon pays, j'étais très actif. Donc, je viens dans un CADA, au CADA d'Arras ici. Je connais personne. Donc, au début, la première semaine, la vie, vraiment, c'était comme si j'étais dans une bulle. Je sais pas comment je vais dire ça. Dans une bulle où vraiment, je n'avais rien. J'avais déjà la nostalgie de ma famille. Je ne sais pas comment j'étais, quoi. Et la vie, si tu n'es pas courageux, si tu n'es pas battant, tu vas craquer. Parce que ça se résume de ta chambre à la salle collective. Donc, si tu n'essayes pas de bouger, ta vie se résume ta chambre et le salon. Donc, moi, dès la première semaine, mon référent, donc c'est Hassen, il m'a bien accueilli parce qu'il a été mon premier référent. Je l'ai demandé, je l'ai expliqué ma vie. Donc, je lui ai dit, écoute, vraiment, pour ne pas rester comme ça, moi, je suis bibliothécaire, je voudrais, s'il y a une bibliothèque sur Arras, vraiment, que je puisse au moins donner un coup de main, bénévolement, parce que je sais que je ne suis pas autorisé à travailler. Donc, il me dit, écoute, il y a une médiathèque à côté, donc je pars me voir avec un travailleur de la médiathèque. Je parle, écoutez, monsieur, je me présente tout et tout, je voudrais donner bénévolement un coup de main. Quoi. Il me dit, il faut une notification. Donc, je reviens au CADA, le CADA fait une lettre, je ramène deux jours après, on me dit non, que ce n'est pas possible. J'ai dit d'accord, est-ce que alors je peux emprunter des revues, des documents pour lire, pour ne pas sombrer dans la solitude, dans tout et tout. Quoi. On me dit oui, c'est possible. Donc, je m'abonne et du coup, chaque semaine, je prenais des jeunes Afriques parce que C'est ma revue préférée, donc Jeune Afrique, que je lisais, et plus maintenant certains romans aussi, quoi. Donc c'est comme ça.
Et ensuite, finalement, tu as développé pas mal de liens avec tout un tas d'associations, du quartier d'Arras Ouest, mais aussi du centre-ville, c'est ça ?
Oui, effectivement. Bon, en même temps, avec la médiathèque où je prenais des revues, des choses à lire, Hassène m'a orienté aussi vers le centre social Arras Ouest, où j'ai été accueilli par l'ancienne directrice Hélène Moscovier. Donc là aussi, je me suis présenté. Elle me dit, écoute, tu as ta place ici. Tu as plein de projets. Donc vraiment, je suis très contente de faire ta rencontre. Développe tes projets, il n'y a pas de problème. Donc je me suis mis dedans. Et ouais, j'ai travaillé avec Mamadou Koulibaly. Donc on faisait des conférences interculturelles. Bon, on essayait de faire découvrir l'Afrique, les valeurs et la culture africaine aux Arajois, quoi. Donc ceux qui participaient à ces conférences, quoi.
Bénévole pour le centre social Arras Ouest, plus que ça maintenant, puisque tu fais partie du conseil d'administration, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, ouais, effectivement. Bon, donc ça a continué de 2014, parce que je suis venu, je crois, avril 2014. Donc 2014, jusqu'à maintenant, je suis avec le centre social Arras Ouest, quoi. Donc j'ai continué comme ça, où en 2015, j'ai été élu membre du conseil de proximité. Et en 2016, j'ai fait partie, jusqu'à présent, je fais partie du conseil d'administration des centres sociaux d'Arras, donc l'AXA, quoi. En même temps, bon, déjà au centre social, il y avait PFM qui a organisé un atelier de radio avec le centre social où j'ai participé pendant, je crois, 10 mois ou une année, quelque chose comme ça. Donc on a travaillé, et là j'ai eu vraiment cette envie de continuer toujours la radio, quoi. Donc ce qui fait que je me retrouve avec mes émissions avec PFM, mes émissions hebdomadaires bien sûr, dans l'arbre à palabre avec des jeunes, où je fais des chroniques littéraires, des contes, de la poésie, mes propres poésies, où, et je fais aussi de la musique africaine. Donc j'essaie de faire découvrir l'Afrique à travers la radio. Ah ouais, j'allais oublier, je fais aussi du conte avec la librairie Au pied de la lettre, sans oublier le bénévolat que je fais avec Colère du présent, l'organisateur du Salon du livre. Et pas mal de choses avec des lycées, par exemple le lycée Savary, où j'accompagne la responsable de la librairie Au pied de la lettre pour des ateliers d'écriture.
Au travers de cet investissement dans le monde associatif, on voit que finalement ta vie, elle est ici maintenant.
Ma vie est ici parce que bon, dès que j'ai été débouté par la CNDA, j'ai ma famille qui m'a dit, écoute, bon, ma famille résidente en France ici, m'a dit, écoute, tu viens, chacun d'eux disait, viens par-ci, par-là, on va rester ensemble. J'ai dit, écoutez, je bouge pas, ma vie c'est ici. Parce que si, par exemple, j'arrivais à aller ailleurs, ce qui veut dire que je reprenais ma vie à zéro. Ce que je n'ai pas voulu et que je n'ai pas accepté aussi. Donc, ma vie, c'est ici. Je connais pas mal de monde. Je me suis investi vraiment et je vais continuer à investir. J'ai beaucoup de choses à apporter à Arras. J'ai beaucoup de choses à apporter. Parce que je vois que vraiment, je ne dis pas tout le monde, mais quand même, l'Afrique est vue autrement. L'Afrique est vue autrement en Occident. Je ne dis pas seulement en France ou à Arras, mais l'Afrique est vue autrement, quoi. Donc, j'ai eu à causer avec pas mal de personnes. Dès qu'on parle de l'Afrique, tout ce qu'ils savent, c'est l'Afrique, c'est les guerres, et la misère, la famine. Donc, et moi, j'essaie de leur dire que vraiment, il y a plein de choses positives en Afrique. Ne voyez pas seulement ce qui se passe sur les médias, ce que les médias vous montrent. Vraiment, l'Afrique a ses valeurs. Et pour ça, vraiment, essayons de communiquer, essayons vraiment d'échanger pour connaître vraiment l'Afrique. Si ce n'est que ces politiques qui essayent vraiment de chambouler ce beau continent, sinon aide-moi. L'Afrique a ses valeurs.
Aidez-moi.
Je tu as évoqué la CNDA, hein, c'est la Commission nationale.
C'est la Cour nationale des droits d'asile.
Voilà, donc qui a débouté hein, ta demande.
Oh, ouais.
Comment ils ont justifié un peu cette décision
Bon, ils ont dit que vraiment mes témoignages n'ont pas apporté beaucoup de conviction.
Pourtant, il y a beaucoup de Guinéens qui fuient leur pays comme toi pour des raisons politiques. Mmh. Hein, on croise notamment sur la métropole lilloise, il y a énormément d'étudiants guinéens. Mmh. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que la CNDA déboute régulièrement les Guinéens. On sait que des fois, ça marche un petit peu aussi par pays. Hein, mmh. C'est-à-dire qu'il y a certains pays avec lesquels la France a des accords et puis d'autres pas. Et puis, comment tu vois un petit peu ça, la situation des Guinéens par rapport à la demande d'asile?
Ils considèrent que la Guinée, ce n'était pas un pays en guerre. Alors que, comme je l'ai dit au début, il y a plein de choses. Vérifiez, partez sur YouTube, tapez torture en Guinée, vous allez voir des choses horribles qui se passent dans les prisons. Moi, je vous dis que, franchement parlant, si les gens arrivent à fuir, à quitter la Guinée, ce beau pays, pour se réfugier quelque part, ce n'est pas fortuit.
Aujourd'hui, tu es sous le coup d'une OQTF, donc obligation de quitter le territoire français. Mm-hmm. Ça veut dire que tu es expulsable, en gros.
Je suis expulsable, mais j'ai contacté un avocat pour vraiment suspendre cette OQTF. Donc, je suis là-dessus.
Autour de toi, il y a un comité de soutien qui s'est formé.
Il y a un fort comité de soutien qui s'est formé. Il y a les centres sociaux d'Arras, il y a Colère du Présent, il y a PFM, il y a un comité de soutien avec la librairie au pied de la lettre. Il y a plein de personnes vraiment qui me soutiennent, parce que je ne mérite pas d'être expulsé.
Eladj Ba, habitant arageois menacé d'expulsion, on l'a interviewé vendredi dernier. Alors le soir même avait lieu une réunion de son comité de soutien. C'était super émouvant parce qu'en plus du témoignage déjà émouvant d'Eladj sur sa situation, il y a plein de personnes qui ont témoigné, comme les jeunes qui le côtoient dans l'émission L'Arbre à Palabre sur PFM, ou encore cette personne qui n'a pas pu retenir ses larmes quand elle a dit qu'elle était tombée gravement malade et qu'Eladj était là pour elle tous les jours pour l'aider dans ses tâches quotidiennes. Construisons une nation sans la reine. La pétition de soutien à Eladj Ba, vous pouvez la signer en ligne soit sur change.org, soit sur educationsansfrontières.org. On vous mettra le lien direct sur le site internet de Radio PFM, donc radiopfm.com. Aidez-moi à combattre cette injustice. Aidez-moi à vaincre l'ethnocentrisme. Pour illustrer ce sujet, on écoute un artiste reggae guinéen, Eli Kamano. Lui aussi dénonce régulièrement la situation politique en Guinée-Conakry. Et récemment, il a même fait un petit passage en prison pour avoir appelé à manifester pour la réouverture des écoles fermées dans tout le pays. Eli Kamano. En forêt, ça c'est de l'ethnisation, c'est de la somalisation, c'est une vraie division. Entre les fils de la nation, moi je refuse cette opposition, moi je vote par conviction. Aidez-moi, 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 aidez-moi.